Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
La durabilité et les enjeux économiques en Afrique sont des sujets étroitement liés, car la croissance économique du continent dépend de plus en plus de la gestion responsable des ressources naturelles et de l'adoption de pratiques durables. Face à des défis tels que la croissance démographique rapide, l'urbanisation et la pression sur les ressources naturelles, l'Afrique doit trouver un équilibre entre le développement économique et la préservation de l'environnement. Le développement des énergies renouvelables est donc une priorité pour assurer la durabilité économique de l'Afrique. Le continent également dispose d'un énorme potentiel solaire, éolien, hydraulique et géothermique qui peuvent donc permettre d'exploiter pour répondre aussi aux besoins énergétiques croissants tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. Et pour en savoir un peu plus, mesdames et messieurs, nous retrouvons Amine Benouna, expert en énergie. Bonjour à vous et bienvenue comme toujours chez vous.
Merci Ababacar.
Alors, sans plus tarder, M. Benouna, comment aujourd'hui les politiques énergétiques des pays africains favorisent-elles la transition vers les énergies renouvelables et durables ?
Ouh là là ! Dire les pays africains comme ça, comme si c'était une entité, on va dire, fédérale ou confédérée, me paraît un petit peu difficile. Les situations sont complètement différentes.
Tout à fait.
Entre les pays qui sont empêchés par toute planification, par l'existence de conflits d'intensité diverses, entre les pays qui n'ont pas fait de réelle planification en ce sens de meilleure exploitation de leurs ressources nationales à cause de tout simplement de problèmes de politique interne, et les quelques pays, eh bien ma foi, dont cité le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, j'ai envie de la citer, mais l'Afrique du Sud est aussi en proie à d'énormes problèmes internes. Donc, effectivement, l'Afrique du Sud est un pays qui fait deux pas en avant, un pas en arrière. Bon, c'est difficile. Mais bon, la particularité du Maroc, c'est que les pas sont lents. On avance toujours dans le même sens, c'est-à-dire le bon sens, mais ça avance lentement. Mais les pays africains, il est très difficile de faire une description, de répondre à une question telle que vous la posez. À mon avis, je ne m'y risquerai pas en tout cas.
Tout à fait. Et dans cette même dynamique, donc aujourd'hui, quelles sont les initiatives spécifiques prises par exemple par le Maroc pour atteindre ses objectifs de durabilité énergétique, notamment dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable ?
Dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable, il y a quand même une feuille de route qui est établie. Il y a c'est un panaché de solutions qui vont depuis la lutte contre du plastique par exemple, jusqu'aux mesures fiscales visant à taxer les pollueurs et tout ça ça rentre dans le cadre de la stratégie de développement durable. Maintenant, c'est trop vaste pour en parler en si peu de temps, mais ma foi, je suis optimiste quant au contenu, mais toujours la même chose, c'est que nous n'avons pas un portefeuille qui nous permet d'aller à la vitesse que nous ambitionnons.
Et aujourd'hui, dans cette dynamique, comme vous le dites, que nous ambitionnons, quelle est la capacité donc actuelle des infrastructures énergétiques en Afrique pour soutenir un développement durable et inclusif, notamment précisément dans le cas du Maroc?
Alors, en Afrique, de façon générale, je dirais que avant d'aller vers la durabilité, il y a un autre problème, c'est que le taux d'électrification rurale et de façon générale l'accès à l'énergie est extrêmement bas dans un très grand nombre de pays. Bon, bien sûr, le Maroc était dans cette situation jusqu'en 1996, où le taux d'électrification rurale était de 18%, il est maintenant de 99, quelque chose. Bon, ce taux est loin d'avoir été fait par beaucoup de pays africains. Il va falloir d'abord qu'ils règlent le problème de l'accès à l'énergie. Mmh. L'accès à l'énergie, c'est quelque chose d'essentiel parce que de toute façon, les gens ont besoin d'énergie et ils font appel à des énergies traditionnelles, notamment le bois, qui dit bois dit déforestation. Et avec la croissance démographique et la déforestation qui augmente avec la population, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut basculer vers des énergies dites modernes, comme le Maroc l'a fait dans les années 60 dans un premier temps et dans les années 80, fin des années 90 dans un deuxième temps. Mmh. Voilà.
Et toujours, hein, donc comment aujourd'hui le Maroc prévoit-il d'étendre ses infrastructures pour accueillir davantage d'énergie renouvelable, notamment à travers des projets comme la centrale solaire Nour ou Anzazata?
Le Maroc est obligé de procéder à petits pas. Nous n'avons pas les moyens de poser un carnet de chèques sur la table et puis d'acheter des centrales clés en main. Ce qui fait que nous sommes obligés, pour créer ces infrastructures que nous créons, et qui réussissent et qui sont pérennes, nous sommes obligés de créer un environnement favorable à l'investissement privé et nous appelons les opérateurs privés à investir en nous vendant l'énergie qu'ils produisent, notamment l'énergie électrique. D'ailleurs, actuellement, la production, par exemple, pour ne citer que la production d'électricité, presque plus de 75% de la production d'électricité au Maroc est privée, est faite dans différents cadres juridiques, que ce soit le cadre de la loi sur les énergies renouvelables ou bien la production d'électricité concessionnelle. Les faits sont là, hein, la production d'électricité au Maroc est pratiquement toute privée. Si on va voir du côté cette fois-ci des hydrocarbures, parce que vous avez parlé d'énergie,
tout à fait.
D'énergie, c'est donc l'ensemble. Eh bien, le secteur des hydrocarbures est complètement privatisé depuis maintenant 30 ans. Et en plus, les prix, à part le butane, les prix sont complètement libres.
Et comme vous l'avez dit aujourd'hui, quand on parle également de ces énergies renouvelables, plusieurs aspects entrent en compte. Mais aussi, le Maroc toujours s'est engagé à produire 52% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Quelles sont donc les étapes clés et les obstacles pour atteindre cet objectif selon vous ?
Excusez-moi, il y a quelque chose que j'ai oublié par rapport aux infrastructures.
Oui, allez-y.
L'infrastructure importante que le Maroc est en train de réaliser, c'est cette espèce d'autoroute de l'électricité qui va permettre d'acheminer l'électricité renouvelable produite dans le Sahara marocain vers Casablanca notamment, parce que les lignes qui existent transportent de l'électricité essentiellement actuellement du nord vers le sud pour alimenter les provinces du sud. Mais lorsque ces provinces du sud produiront beaucoup plus d'électricité qu'elles n'en consomment, ce qui sera très bientôt le cas, eh bien, il va falloir acheminer cette électricité vers les points qui consomment le plus au Maroc, notamment à la région de Casablanca. Et donc, il va y avoir cette ligne de très haute tension à 400 kV, de 1400 km, qui va permettre de remonter l'électricité vers le nord, mais en quantité importante, parce que c'est déjà un peu le cas, mais il va falloir, c'est-à-dire que les flux ne seront plus les mêmes.
Et donc aujourd'hui, comme vous le savez, donc, dans cette optique de l'horizon 2030, le Maroc a pris des initiatives sur le cadre énergétique et tout. Pouvez-vous également revenir sur cet objectif, avec bien évidemment, comme j'ai dit, la production d'ici 2030 de 52% donc de nos énergies, notamment de ressources renouvelables?
Alors, je tiens à refaire une précision. Il s'agit de 52% des capacités de production électrique et non du mix électrique et encore moins du mix énergétique. Okay. C'est-à-dire que nous devrions, d'ici à 2030, avoir une capacité de production d'électricité qui serait entre 16 000 et 17 000 MW, et 52% de cette puissance installée devra être faite en renouvelable, c'est-à-dire en éolien, solaire, et dans une, enfin, et dans une moindre mesure dans l'hydraulique, puisque nous n'avons plus d'eau et nous préférons garder notre eau pour d'autres usages. Voilà. Quant à moi, bien que je sois parfois critique à certains égards, je suis très optimiste pour ces 52%. Je pense que nous les ferons, non pas pour un optimisme béat, mais parce que initialement, lorsque nous avons parlé de 52%, lors de l'élaboration de la stratégie en 2008, nous envisagions 52% de 24 000 MW. Donc en fait, c'est le dénominateur qui n'est plus le même. Donc ça va être facile à réaliser. Nous devrions le réaliser sans problème, même si aujourd'hui nous sommes à peine à l'objectif de 2020. Ce n'est pas grave. Dans le domaine de l'éolien, les choses vont très très vite. Et puis nous devrions atteindre les 52% de la capacité électrique installée en renouvelable sans problème.
Et aujourd'hui, par rapport également à cette gestion des ressources, comment voyez-vous le positionnement du Maroc, notamment que ce soit aussi dans le domaine pétrolier ou autre, parce que vous ne l'avez pas dit tout de suite dans vos propos, concernant également le stress hydrique, qui aujourd'hui menace aussi le Royaume du Maroc comme beaucoup de pays. Quel est aujourd'hui le positionnement du Maroc dans le domaine de ces énergies ?
Bien, déjà, ce qui est sûr, c'est que il y a la filière, on va dire, de dessalement d'eau va suivre une phrase simple que nous avions établie lors d'un symposium: touche pas à mon eau conventionnelle. C'est-à-dire que l'eau conventionnelle ne sera pas utilisée pour par exemple pour l'hydrogène vert, et on utilisera de l'eau dessalée, que ce soit pour l'hydrogène vert ou pour tout ce qui est nouvelles ressources. On ne va pas faire des malins. Ces centrales de dessalement, à défaut d'être complètement alimentées par des énergies renouvelables, l'énergie qu'elles consommeront sera compensée par une production d'énergie renouvelable. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si ces centrales ont besoin d'électricité, elles prélèveront sur le réseau l'électricité dont elles ont besoin. Mais en contrepartie, les exploitants de ces centrales devraient être chargés d'injecter réinjecter dans le réseau une quantité d'électricité renouvelable égale à celle qu'ils ont prélevée.
Et donc, dernière question également, aujourd'hui parlant de sécurité énergétique au Maroc. Quel rôle est également la coopération régionale peut-elle jouer dans le cadre de cette sécurité, notamment à travers des partenariats avec des pays voisins pour le développement d'infrastructures transfrontalières, mais surtout comment aussi le Maroc gère-t-il sa dépendance aux importations d'énergie, notamment de gaz et de pétrole ?
Écoutez, de toute façon, le Maroc a environ un tiers de son énergie qui est en fait de combustible liquide. Et les combustibles liquides sont utilisés aujourd'hui essentiellement pour le transport. Nous n'avons pas d'autre choix pour l'instant que de les importer. Reste que de les importer, et nous changeons pratiquement de pays importateurs de façon régulière. Nous avons quelques pays qui sont réguliers, qui sont là depuis des dizaines d'années. Mais la quantité importée de chacun varie d'une année à l'autre en fonction des intérêts du pays. Et plus exactement, les compagnies distributrices qui sont, elles, en charge de la question. Maintenant, pour ce qui est de l'intégration régionale, moi, je crois beaucoup, beaucoup dans l'avenir du gazoduc Nigeria-Maroc, parce que le plus difficile, c'est pour moi la phase actuelle, parce que il va falloir qu'il soit fait. Une fois qu'il sera fait et que les premiers mètres cubes auront circulé dans ce gazoduc, on n'aura plus qu'un seul problème, c'est de le sécuriser. Parce que tous les pays, les 13 pays concernés, seront contraints, de par le fait qu'ils deviendront des consommateurs ou de par le fait qu'ils deviendront des fournisseurs, seront contraints à la raison et à ne pas, on va dire, ruer dans les brancards à la moindre occasion, au moindre coup d'État, au moindre changement de régime. Je pense que c'est quelque chose qui est de nature non seulement à faire aller chercher une convergence d'intérêts, mais aussi de nature à contribuer à l'électrification des pays et à la stabilité politique de la partie atlantique de l'Afrique.
Également de l'Afrique, mais aussi du Maroc. Merci encore à vous, Amine Benouna. Nous étions avec vous, bien évidemment, pour parler toujours de durabilité, mais aussi par rapport aujourd'hui aux enjeux énergétiques de l'Afrique, mais en particulier du Maroc. Merci comme toujours d'être parmi nous pour également échanger avec nous sur ce sujet tant également important aujourd'hui à l'ère de l'horizon 2030, comme le dit le Maroc. Encore un plaisir de vous avoir reçu.
Merci à vous.